7h25, l'heure du reportage de la rédaction. Presque un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, l'inquiétude persiste. Quelles conséquences sur la santé? La commission d'enquête du Sénat se déplace sur place aujourd'hui. Il y a deux jours, la commission auditionnait le PDG de Lubrizol. Et devant les parlementaires, le PDG a assuré que les produits consommés ne présentaient aucune menace pour la santé. Bonjour Véronique Rebeyrotte.
Bonjour.
Alors vous revenez de Rouen. Les mots du PDG de Lubrizol restent au travers de la gorge des habitants de la métropole rouennaise, gorge encore irritée un mois après l'accident.
Quand le PDG de Lubrizol affirme, je cite, « Ce qui a brûlé à Rouen n'est pas plus toxique que l'incendie d'une maison », il sidère, il ne rassure personne bien sûr. À commencer par l'association nationale Respire, elle vient de créer une antenne locale à Rouen. Son président Olivier Blanc.
À Rouen, l'incendie de Lubrizol, c'est l'équivalent d'une marée noire au plein cœur d'une ville de 100 000 habitants. Selon les chiffres officiels, on a presque 10 000 tonnes de produits qui sont partis en fumée. Qu'est-ce que cette marée noire, avec cette fumée, avec ces odeurs qui persistent encore un mois après, avec les pluies noires, parfois des flaques d'hydrocarbures dans les jardins, quelles conséquences ça va avoir sur la santé des gens? Et le problème, c'est qu'un mois après, on ne sait toujours rien. C'est absolument impossible qu'une telle marée noire n'ait aucune conséquence sur la population.
Entre autres failles des analyses publiées par les services de l'État, l'absence d'évaluation de l'effet cocktail, autrement dit l'exposition à un cocktail de polluants déjà extrêmement nocifs pris individuellement. C'est une des inquiétudes de Pauline Hamel. Elle habite en famille dans un quartier cossu de la commune de Mont-Saint-Aignan. La marée noire a laissé des traces dans son jardin.
On est dans notre jardin, entre la maison et la rue. On a trouvé des petits morceaux de quelques centimètres de l'amiante, oui, que j'ai fait expertiser. J'ai d'abord fait venir un huissier et ensuite je me suis rendue au laboratoire. Et il s'est avéré que c'était de l'amiante, oui. On nous explique qu'à la suite de l'explosion et de l'incendie, l'amiante a été plaquée au sol par la pluie. Les spécialistes en amiante nous disent que dès qu'il fera un peu plus sec, les particules vont se libérer et se répandre dans tout le voisinage.
Quand la ministre de la Santé dit par exemple « il faut maintenant reprendre une vie normale »,
ça pourrait me faire sourire si c'était pas aussi grave. On nous dit d'éviter de laisser notre enfant jouer dans le jardin. Donc oui, bien sûr, la vie normale, c'est... On n'est pas spécialement complotiste et moi j'ai aucune raison de douter dans la parole des autorités. Cependant, l'expérience prouve depuis plusieurs semaines que il y avait 5000 tonnes qui ont brûlé. Finalement, c'est pas 5000, c'est presque 10 000. Il y avait pas de chlore et puis finalement il y a du chlore. Il y a pas d'amiante dans l'air. Bon, finalement, j'en retrouve dans mon jardin. Ça me paraît très important en fait de fédérer la population et d'expliquer à tout le monde qu'on peut partir d'un instant T maintenant, de faire le bilan d'un état de santé généralisé et de refaire le point une fois par an, une fois tous les 2 ans si besoin.
Bon, ce suivi médical sur le long terme, Véronique, c'est une demande très forte de la population rouennaise.
Et ce suivi, il a été mis en place après la catastrophe de Seveso en 1976. Il se poursuit 40 ans après en Italie. Les toxicologues disent qu'il y a des similitudes d'ailleurs entre Seveso et l'incendie de Lubrizol, avec dans les deux cas une exposition de la population à des taux de dioxine élevés. Or, les effets de ce perturbateur endocrinien sur la santé se vérifient bien des années après. Un seul chiffre à Seveso, le nombre de cancers du sein est 60 fois plus élevé que la normale 40 ans après. Cette demande de suivi, elle revient constamment lors des consultations du docteur Franck Prouet, il est médecin généraliste à Canteleu, tout près de Rouen.
Pour l'ensemble de la population, ce qu'il faut, c'est savoir quels étaient les polluants, savoir où ils sont tombés et organiser un suivi sur des années et des années et des années. Par exemple, la pollution amiante, le préfet nous a dit il n'y a pas de risque avéré amiante. Mais après, on s'est aperçu qu'il y avait un toit qui avait brûlé en fibre au ciment et qui avait, dans certains prélèvements, jusqu'à 3,8 fibres. On nous a dit que ce n'était pas vraiment un problème. Mais ces normes administratives, elles datent des années 70. C'était le dosage des fibres à l'époque. Mais aujourd'hui, les taux classiques de pollution de fond, c'est 0,08 fibres par litre. C'est-à-dire 62 fois moins que ce qui est trouvé. Donc, pour considérer qu'on a trouvé jusqu'à 62 fois plus de fibres amiantes. Et ça, c'est un risque cancérogène. Il faudra le suivre sur des années, des années, des années.
Alors, ce suivi, il n'avait pas été mis en place en 2013 à Lubrizol lors d'un précédent incident. Sûrement, déjà pour ne pas affoler la population, le préfet de Seine-Maritime m'a fait savoir il y a 2 jours que des annonces pourraient être faites demain dans ce sens. Le préfet Pierre-André Durand.
Je rappelle que le gouvernement a pris un engagement très fort, qui est justement un petit peu de rompre par rapport à ce qui s'était fait en 2013 et ce qui avait été reproché, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas finalement un suivi qui pourrait s'inscrire dans la durée. Nous sommes en train d'y travailler Et vendredi, nous avons le comité pour la transparence et le dialogue. Et nous aurons à cette occasion une annonce à faire pour présenter justement le dispositif.
Alors hier, Véronique, ont débuté les opérations de déménagement des fûts endommagés sur le site de Lubrizol. Une opération qui a été effectuée par des robots.
Opération délicate, elle va durer 2 mois, confinée sous une vaste tente blanche. Là encore, rien de bien rassurant pour Simon de Carvalho. Il est membre du collectif Lubrizol qui vient tout juste de se créer.
Qu'est-ce qu'on appelle confiné ? Je veux dire, vous comprenez bien que s'il y a un drame, s'il y a une catastrophe, la tente, elle va sauter, quoi. Puis en même temps, si on peut essayer d'absorber les odeurs. Vous savez, en ville, l'idée de la ville, ça a été de mettre du déodorant dans les rues pour pas qu'on sente cette odeur, pour que le touriste puisse revenir et pour que les habitants puissent oublier qu'il y a eu une catastrophe juste à côté et qu'elle y est encore. Un déodorant de barbe à papa.
Voilà, qui pourrait là aussi prêter peut-être à sourire si tout cela n'était pas aussi grave.
Merci beaucoup Véronique Robérotte. On retrouve votre reportage sur le site de France Culture, franceculture.fr. On va évoquer une autre colère populaire, celle-ci au Liban. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Ishak Diwan. Il est professeur à la chaire socio-économie du monde arabe à Paris Sciences et Lettres.